abrège avec ta mère, on va louper le début.
Maman, je raccroche là, c'est... Non, mais c'est le début de l'agité du local.
Et c'est sur l'autre radio.
Ce que j'aime particulièrement dans cette émission, c'est vous parler d'amour, d'intimité, ces sujets qui nous concernent tous individuellement, mais qui font aussi et souvent société. Aujourd'hui, je vous propose un sujet intime, profond et pourtant aussi universel, la répartition des responsabilités, des corps et des choix dans un domaine que l'on croit connaître, mais qui mérite que l'on le regarde autrement. Et si la contraception n'était pas qu'une affaire de femmes, la contraception, c'est un mot chargé que l'on pourrait tous se réapproprier. Et oui, dans un monde où l'on cherche sans cesse à rééquilibrer les rôles, à entendre des voix nouvelles, j'ai voulu inviter quelqu'un qui justement a porté son attention sur ce sujet. Elle est avec moi aujourd'hui, il s'agit du docteur Xenia Breuil. Bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui.
Pour l'invitation.
Donc vous êtes médecin généraliste, mais aussi autrice d'une thèse qui questionne justement l'implication des hommes dans la contraception. Vous étiez présente hier lors de la projection du film Vasectomie, ça va faire mal, aux côtés du réalisateur Jean-François Marquet. C'était une projection donc, qui fait partie des rencontres cinéma et santé organisées notamment par l'association Atmosphère 53, des rencontres qui s'étendent encore jusqu'au 24 janvier. Donc on en parle ensemble dans quelques instants. Et je ne suis jamais seule dans ce studio, c'est un vrai plaisir puisque chaque jour j'ai à mes côtés Maxime. Bonjour Maxime, comment tu vas ?
Bonjour, ça va super et toi ?
Ça va très très bien. On va retrouver aujourd'hui ensuite, après l'entretien du jour, la lecture de l'auditeur, avant de se plonger dans notre reportage qui retrace l'histoire de la galette des rois et qui nous amène à la rencontre de la boulangerie mayonnaise qui cette année a remporté le prix de la meilleure galette frangipane. On termine avec notre chroniqueur qui ne craint pas les mots et qui se dévoile chaque semaine un peu plus dans cette émission. Est-ce qu'on peut le dire qui fait tomber le masque ? Je me permets un peu ce teasing puisqu'il semblerait qu'aujourd'hui, il nous parle de Zorro. Eh bien oui, je suis inspirée aujourd'hui, amis auditeuristes, c'est le début de votre émission quotidienne, l'agité du local, et c'est sur l'autre radio, je suis Margot, mais surtout je suis en bonne compagnie aujourd'hui puisque je suis avec le docteur Xenia Breuil. Donc je le disais, vous êtes médecin généraliste et aussi autrice d'une thèse sur l'implication des hommes dans la contraception. Le titre précisément de votre thèse, c'est « Point de vue des internes sur l'intégration des hommes dans les réflexions autour de la contraception ». J'ai envie de vous demander peut-être pour commencer, pourquoi est-ce que vous avez choisi de travailler sur ce sujet-là pour votre thèse, Xenia ?
Eh bien, alors il faut savoir que pour cette thèse, on a été deux à l'écrite et à étudier dessus. Donc, je tiens aussi à parler du docteur Goodenough qui était ma co-thésarde et amie avec qui on a travaillé pendant presque 2 ans dessus. Ça a commencé, en fait, par l'idée que nous faisions nous-mêmes aussi de la contraception et de la prise en charge de celle-ci, avec une volonté justement d'essayer de réfléchir, nous en tant que médecins généralistes, comment est-ce qu'on pourrait parler de contraception avec les patients et les patientes, et surtout du coup, comment est-ce qu'on pourrait intégrer les hommes, car on voyait bien que dans notre société et dans notre travail du quotidien, la contraception était quelque chose qu'on orientait vers une prise en charge féminine, alors que ça concerne les deux personnes du couple. Donc c'était quelque chose qu'on voulait essayer d'aborder. Et pour cela, on a voulu questionner en fait nos co-internes, donc nos collègues de stage et de promotion, qui étaient eux aussi en fin d'études sur ce sujet.
Les représentations de la contraception sont effectivement, comme on vient de le dire, principalement vues comme une charge féminine. Vous êtes penchée sur le point de vue des internes. Est-ce que, selon vous, c'est une représentation donc aussi largement présente parmi les futurs médecins, le fait que ce soit une charge féminine ?
Eh bien, justement, c'était intéressant. Les internes qu'on a interrogés critiquaient cette représentation et dans la théorie essayer de dire que non, ça concerne aussi les hommes, mais dans les faits on se rend compte que notre formation médicale pendant nos années d'études oriente la contraception vers les femmes puisqu'elle est principalement abordée dans les livres et la spécialité de gynécologie, donc spécialité centrée sur la santé des femmes. On le voit aussi dans les contraceptions médicales que l'on peut proposer aux patients et aux patientes, elles sont davantage féminines, mis à part la vasectomie, justement, qui était le sujet du film. Les autres contraceptions médicales sont plutôt orientées pour une prise en charge par les femmes. Le préservatif, on ne le comptait pas comme une contraception médicale puisqu'il peut être utilisé en dehors de l'avis ou de la prescription du médecin. Et donc, c'était intéressant, justement. Il venait contrebalancer ces représentations, mais dans le pratico-pratique, bah, malheureusement, pour le moment, on en parle encore davantage, voire même entièrement aux femmes.
On parle de contraception masculine, vous avez cité la vasectomie. Quelles autres alternatives il y a du côté des hommes en termes de contraception ?
Eh bien, on ne l'imagine peut-être pas comme ça, mais le préservatif masculin est une contraception masculine puisqu'elle fait intervenir l'homme dans sa gestion et son utilisation. La vasectomie aussi est une contraception masculine. Il y a aussi, ça rentre dans ce qu'on appelle les méthodes naturelles, la méthode du retrait. Que l'on peut aussi qualifier de contraception et de contraception masculine, puisque là aussi, elle implique une gestion par l'homme. Et puis, il y a aussi de nouvelles contraceptions qui émergent, qui sont ce qu'on peut appeler les contraceptions thermiques, qui viennent en fait stopper la production de spermatozoïdes par les hommes. Elles sont en cours d'étude, mais il y a déjà certains hommes qui se l'approprient, et ce, dès les années 70, en fait, en France, pour justement venir, pour certains, remettre un peu d'équité contraceptive, de responsabilité contraceptive auprès des hommes en utilisant ces contraceptions thermiques.
Vous allez me dire, mais vous mentionnez dans votre thèse que certains internes voient la contraception masculine justement comme un outil d'émancipation sexuelle également. Est-ce que vous pouvez m'en dire quelques mots ?
Eh bien, en tout cas pour la contraception masculine, l'idée de venir gérer sa procréation, en tout cas sa capacité de procréation, peut être en effet perçue comme quelque chose d'émancipateur dans sa sexualité, c'est-à-dire que bah, les hommes ne vont pas dépendre lors d'un rapport hétérosexuel sur est-ce que leur partenaire a pris ou non une contraception, est-ce qu'il y a un risque d'une grossesse non désirée et même plus largement un risque de transmission d'infections sexuellement transmissibles. Donc le fait que les hommes puissent eux-mêmes gérer leur fertilité, ainsi du coup leur contraception, permettrait en fait de se sentir plus libre. C'était en fait un peu la volonté des féministes lors de la deuxième vague pendant les années 70 de dire eh ben, la contraception permettrait aux femmes de se réapproprier en fait leur corps, leur choix de procréation. Ben, maintenant, on peut dire que c'est la même chose aussi pour les hommes.
Hier, lors de la projection du film, donc, il s'agissait du film « Vasectomie, ça va faire mal », réalisé par Jean-François Marquet. Donc, il était principalement question justement de la vasectomie. Aujourd'hui, c'est encore quelque chose qu'on aborde peu. C'est un choix qui est peu choisi par les hommes. Quels freins spécifiques vous avez peut-être identifié dans la société aujourd'hui par rapport justement à cette possibilité de la vasectomie ? Comment se fait-il que peu d'hommes encore pratiquent cette contraception ?
Le plus gros frein qu'on a pu mettre nous aussi en évidence et aussi au final auprès des médecins qui du coup ne la proposent pas, c'est celui de l'irréversibilité. On considère que la vasectomie, c'est une contraception irréversible. Ça veut dire que lorsqu'un patient décide de faire une vasectomie, le choix après de faire des enfants et donc d'entamer une parentalité est beaucoup plus difficile. Il est possible car lorsque l'on part sur un parcours de vasectomie, on propose aux patients d'autoconserver leurs spermatozoïdes pour après, s'ils souhaitent quand même avoir un projet de parentalité, rentrer dans ce qu'on appelle un parcours de procréation médicalement assistée. Mais ça présente des limites en fait plutôt là de pratico-pratique, de praticité, de réalisation de la PMA. Donc, le plus gros frein que je trouve, c'est le côté irréversible de cette méthode qui fait qu'énormément de médecins ne l'abordent pas notamment avec des patients jeunes alors que la vasectomie est autorisée à partir de 18 ans et ne l'abordent pas avec des patients qui n'ont pas eu d'enfants encore.
Hier, vous étiez présente lors de la projection justement du film que je viens de citer, « Vasectomie, ça va faire mal ». Vous étiez aux côtés du réalisateur Jean-François Marquet. Ce qui est intéressant lors de ces rencontres cinéma et santé, c'est qu'il y a un débat, des questions, des échanges avec le public. Ensuite, quelle réaction peut-être vous avez remarqué hier de la part du public concernant cette thématique ?
Eh bien, ce qui était surtout marquant lors de cette séance, c'est la pluralité des âges et des genres qui étaient présents dans la salle. Il y avait vraiment des hommes, des femmes, des jeunes, des personnes plus âgées, des personnes qui avaient la quarantaine. Et il y avait aussi des personnes qui avaient, des hommes qui avaient réalisé une vasectomie, d'autres non, des gens en réflexion. Et donc, c'était cette pluralité des profils qui était vraiment très pertinente et qui montre en fait que ce sujet de la contraception masculine et plus précisément la vasectomie, eh ben, touche tout le monde. Et donc, peut-être, on manque d'informations dessus. C'était aussi très intéressant. Dans le public, il y avait d'autres professionnels de santé, notamment des sages-femmes, lesquelles font aussi la présentation de cette contraception lorsqu'elles reçoivent plutôt des femmes, mais qui, justement, est un moyen d'informer aussi les hommes de ce type de contraception.
Ça me fait venir une question. Est-ce qu'on a des chiffres aujourd'hui, peut-être, pour savoir quelle tranche d'âge d'hommes aujourd'hui pratiquent plus la vasectomie, justement ? Est-ce que ce sont des hommes qui ont déjà eu des enfants ? Est-ce que les jeunes se tournent de plus en plus vers ça ? Est-ce que vous avez des chiffres à ce sujet ?
Alors, j'ai pas de chiffres exacts. Il me semble de mémoire que la vasectomie concerne principalement les personnes de la quarantaine, autour de 44 ans. Ça commence à diminuer, à arriver à 43. Je pense aussi principalement des hommes ayant déjà eu des enfants. On voit la demande, elle est exponentielle actuellement. Alors, on part de presque rien dans le film, et c'est toujours plutôt le cas. On est en France à environ 1% de personnes ayant une contraception utilisant la vasectomie comme contraception. Donc, c'est vraiment très peu par rapport à des pays anglo-saxons comme le Royaume-Uni, le Canada ou les États-Unis, où là, ils vont être plus autour de 10-12%. Et en fait, oui, pour le moment, ça concerne davantage les personnes qui ont la quarantaine, qui ont déjà eu un projet parental et qui souhaitent en fait venir en relais de la contraception de leur compagne. Mais je pense que petit à petit, on verra peut-être aussi des plus jeunes arriver et demander cette contraception.
En tant que médecin généraliste, comment cette réflexion, ces recherches ont-elles influencé peut-être vos pratiques, votre propre pratique, votre propre manière d'aborder la contraception avec vos patients? Qu'est-ce que peut-être on peut réinventer dans la manière de proposer une contraception quand des patientes même peut-être viennent se renseigner auprès de vous?
Ouais, c'est une super question parce qu'en effet, c'était l'objectif aussi de notre thèse, de savoir maintenant qu'est-ce qu'on fait en tant que médecin généraliste. Pour ma part, j'ai commencé à faire la distinction entre le fait de proposer une contraception à celui de la présenter. Avant, je pouvais proposer en essayant d'adapter mon discours et la proposition de certaines contraceptions en fonction des patients que j'avais en face de moi, de leur âge, de leurs conditions de santé, etc. Maintenant, ce que j'essaie de faire au mieux, c'est présenter le large panel de contraceptions que l'on a. Alors, simplement en les nommant, en montrant un petit peu comment elle fonctionne s'il y a des questions, et ensuite en affinant mon propos en fonction des demandes du patient ou de la patiente que j'ai en face de moi. Mais je fais la différence. Et le fait de venir proposer en fait systématiquement toutes les contraceptions, ça permet dès un âge jeune en fait d'avoir juste entendu parler de contraception définitive, de contraception masculine et aussi d'autres types de contraception comme les contraceptions naturelles. En fait, il faut dire, moi, ce que j'essaie de me dire, c'est que le choix appartient aux patients et aux patientes. Et moi, je ne suis là simplement pour les orienter, les guider, pour arriver ensemble au meilleur choix, mais le choix reste le leur.
Une chose que l'on peut préciser, finalement, on entend peut-être plus facilement parler ou peut-être plus de femmes pratiquent à un moment donné dans leur vie la ligature des trompes. Par contre, la vasectomie, finalement, c'est une intervention qui est assez, finalement, c'est pas une si grosse intervention que ça.
Non, en effet, ce n'est pas une intervention très longue ni très compliquée. ni très cher aussi, et il n'y a pas forcément beaucoup d'effets indésirables derrière. En tout cas, on peut considérer que c'est une prise en charge, une opération beaucoup moins lourde que la ligature des trompes. Historiquement, oui, c'était plus la ligature des trompes qui était réalisée, mais l'on voit depuis quelques années que maintenant, ce sont c'est les vasectomies qui sont davantage réalisées, je pense, en fait, par praticité entre les deux méthodes, parce qu'en effet, la vasectomie est beaucoup plus facile de réalisation que la ligature des trompes.
Merci beaucoup, Xenia, d'avoir été avec nous. Pour aller peut-être plus loin sur cette question de la contraception masculine, si l'auditeur a envie d'aller creuser un peu davantage cette question-là, est-ce qu'il y a des lieux ressources, des livres, même des podcasts, des ressources qu'on peut conseiller à l'auditeur de l'autre radio pour aller creuser davantage cette question-là ?
Oui, je pense. Alors déjà, comme ressources officielles, tous les centres de santé sexuelle, les centres de planning familial et même les médecins généralistes peuvent être une source d'information. Il y a le site du gouvernement Questions de sexualité au singulier qui aborde justement la santé sexuelle dans sa globalité. Ensuite, sur la vasectomie ou les contraceptions masculines, je pense qu'il doit y avoir des podcasts. Je crois notamment que le réalisateur a réalisé un podcast pour France Culture parlant de sa vasectomie qu'il avait fait donc maintenant en 2012, donc qui est toujours disponible, je pense, sur le site de Radio France. Et il y a de plus en plus de podcasts qui sont faits ainsi que de documentaires sur la vasectomie et les contraceptions masculines de manière générale. Il y a aussi des associations en fait d'hommes souhaitant se contracepter. Il y a l'association Ardecom qui essaye de parler de contraception masculine et donc avec des antennes ressources un peu partout sur le territoire d'usagers en fait de contraception. Donc là, ce ne sont pas des professionnels de santé, mais bien des personnes qui utilisent, des hommes qui utilisent ces contraceptions.
Et puis évidemment, on a parlé du film Vasectomie, ça va faire mal. J'imagine que c'est aussi un très bon film qui permet aussi de se pencher sur la question. Le film réalisé donc par Jean-François Marquet qui était présent également hier à vos côtés.
Oui, tout à fait, avec en plus une manière de montrer en fait la pluralité des profils des hommes qui peuvent s'intéresser à la vasectomie. Vraiment, je conseille d'aller voir ce film qui peut-être sera redisponible sur la plateforme France Télévisions. Il l'avait été pendant pas mal d'années, donc peut-être qu'il y retournera un moment.
En tout cas, merci beaucoup Xenia Breuil d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je le rappelle, vous êtes médecin généraliste et également donc autrice d'une thèse donc sur l'implication des hommes dans la contraception. Le titre précis de votre thèse, c'est « Point de vue des internes sur l'intégration des hommes dans les réflexions autour de la contraception ». Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui et de nous avoir éclairé sur ce sujet qu'on aborde trop peu, mais qui est important d'aborder davantage. Merci beaucoup Xenia.
Merci à vous.
Donc on continue avec la lecture de l'auditeur dans quelques minutes, mais avant ça, on fait une pause musicale, Maxime.
Tout à fait, nous allons écouter Grace Kelly de Mika accompagnée d'un orchestre symphonique. Do I attract you? Do I repulse you with my queasy smile? Am I too dirty? Am I too flirty? Do I like what you like? I could be wholesome, I could be lonesome, little bit shy. Why don't you like me? Why don't you like me without making me try? I try to be like Grace Kelly, but my looks are too sad. So I tried a little Freddy. I've got an identity, my. I could be brown, I could be blue, violet, I could be young, I could be black, I could be anything that I gotta be green, gotta be green, gotta be everything. Oh, why don't you like me? Why don't you like me? Walk out the door. How can I help it? How can I help it? How can I help what you think? Head on my baby, head on my baby. Putting my life on my brink. Why don't you like me? Why don't you like me? Why don't you like yourself? Should I bet over? Should I be colder? Should I put on your shell? I try to be like Grace Kelly. Mono de looks were too sad. So I tried to do Freddy. I've got identity, my. I could be brown, I could be blue, I could be violet.
say what you want to satisfy yourself.
Hey!
But you only want what everybody else says you should want. You want. I could be brown, I could be blue, I could be violet sky. Gotta be green, gotta be me, gotta be everything. Oh, why don't you like me? Why don't you like me? Walk out the door. I could be brown, I could be blue.
Une séquence qui mêle l'intime et l'universel. Je vous tends le micro pour vous raconter comme vous le souhaitez, avec vos mots ou ceux des autres. C'est le moment de la lecture de l'auditeur.
Dans ma vie, le centre du monde, c'est l'amour.
Mon record, c'est Les jeunes filles de Monterland que j'ai lu plus de 100 fois.
J'ai fait semblant plein de fois de discuter avec des gens en disant « Ouais, putain, j'imagine quand même ça, c'est... » Mais en fait, j'ai pas...
Il y a des pages entières qui me hantent, des déclarations d'amour dont je me souviendrai toujours.
On n'a pas trouvé un nom tout de suite à cette séquence. Ce moment est simple et beau, mais c'est la lecture de l'auditeur.
Vous écoutez l'agité du local.
Pour la lecture de l'auditeur aujourd'hui, c'est Lilou que l'on retrouve. Qu'est-ce que tu vas nous lire, Lilou ?
Un poème sur la mélancolie d'un ciel d'automne.
On t'écoute.
Sous le ciel pâle où l'ombre s'étend, les feuilles chutent sans un mot, comme des souvenirs d'un temps lointain, emportés par le vent dans la nuit. Le sol les recueille en silence, témoin d'une époque disparue. Chaque souffle, chaque danse, nous rappelle ce qui n'est plus. Et dans la brise douce et claire, s'éteint le dernier éclat de l'été. L'automne murmure sa lumière dans un rêve où le temps s'est arrêté.
Merci, c'est très beau. C'est toi qui l'as écrit ?
Oui, mais j'ai été aidée.
Et donc, pourquoi est-ce que c'était important pour toi de le partager aujourd'hui avec l'auditeur de l'autre radio ?
Parce que je suis quelqu'un de très nostalgique. Et l'automne, c'est un peu une période que je n'aime pas. Parce que l'été nous manque. Et donc, j'ai voulu le mettre en poème.
Merci beaucoup, Lilou. Et oui, elle est dans toutes nos assiettes. En ce moment, il s'agit de la galette des rois. Nous avions envie de nous pencher sur son histoire et d'aller à la rencontre de la boulangerie mayonnaise qui a remporté le prix de la meilleure galette frangipane de la Mayenne. C'est notre reportage du jour. Écoutez. En ce début d'année, elle est partout sur nos tables, dans nos repas de famille ou entre amis. La galette des rois, une tradition gourmande qui traverse les générations et se décline sous plusieurs formes. Pour certains, c'est la douceur d'une brioche aux fruits confits qui marque l'occasion. Pour d'autres, c'est la particularité de la galette originale qui fait l'unanimité. Mais la reine incontestée reste sans doute la galette frangipane avec son feuilletage doré et sa crème d'amande généreuse devenue un incontournable de ce mois de janvier. L'histoire de la galette des rois remonte bien plus loin que nos tablés modernes. Ses origines plongent dans l'Antiquité où les Romains célébraient les Saturnales, une fête marquant le solstice d'hiver. À cette occasion, un festin était organisé et une fève, véritable graine à l'époque, était cachée dans un gâteau. Celui qui la trouvait devenait le roi d'un jour, une manière de renverser les rôles et d'oublier, le temps d'une journée, les hiérarchies sociales. Avec l'arrivée du christianisme, cette tradition païenne a été réadaptée pour célébrer l'Épiphanie, fête religieuse en l'honneur des rois mages venus rendre hommage à l'enfant Jésus. Dès le Moyen-Âge, la galette devient un symbole de partage, chaque convive recevant une part égale. Une part supplémentaire, appelée la part du bon Dieu ou part des pauvres, était souvent réservée pour les nécessiteux. Au fil du temps, la galette a évolué, passant d'un simple pain rustique à des versions plus élaborées. En France, deux grandes traditions se distinguent. Dans le nord, la galette feuilletée, garnie de frangipane, et dans le sud, la brioche moelleuse décorée de fruits confits, appelée gâteau des rois. Cette dualité régionale perdure encore aujourd'hui. La fève, quant à elle, s'est transformée. Si elle était d'abord une simple graine, elle a laissé place, dès le 19e siècle, à des figurines en porcelaine, parfois devenues de véritables objets de collection. Aujourd'hui, ce symbole reste au cœur de la tradition, transformant chaque dégustation en moment de surprise et de convivialité. Ainsi, derrière chaque galette des rois, qu'elle soit briochée, feuilletée ou exotique, se cache une histoire riche de sens et de partage, un lien entre passé et présent qui continue de rassembler les familles et de régaler les gourmands. Mais alors, vous en avez probablement testé plusieurs parmi celles de nos boulangers mayennais. Saviez-vous que chaque année, la Fédération des boulangers de la Mayenne remet un prix à la meilleure galette frangipane, la meilleure galette originale, ainsi que la meilleure briochée? Justement, cette année, le prix de la meilleure galette frangipane a été remis à Joris Labbé de la boulangerie La Tentation à Saint-Berthevin. Nous avons passé le pas de la porte de cette boulangerie et on écoute tout de suite Linda Labbé, gérante aux côtés de son mari, nous parler de ce que représente ce prix pour eux.
On est très content et du coup, ça récompense le travail qu'on fait toute l'année.
Pourquoi vous pensez que justement votre galette a été distinguée? Qu'est-ce qu'elle a peut-être en plus de particulier?
Les ingrédients, c'est de la farine, de la poudre d'amande, du sucre, et puis des œufs, et puis le savoir-faire du pâtissier, je pense aussi.
Quels sont les critères justement pour ce concours?
Alors, les critères, c'était du coup la dimension de la galette. Le feuilleté, il y avait le goût aussi, tout l'ensemble.
il y avait donc la brioche, la galette originale et puis la galette, la galette aux amandes, la galette frangipane. Vous avez concouru dans toutes les catégories ou celle-ci comptait particulièrement pour vous?
Alors cette année, on a fait la galette originale, la frangipane, la brioche. On n'a pas eu le droit cette année de participer parce qu'on a eu le premier prix l'année dernière.
Quelle est l'importance peut-être de la technique justement dans la réalisation d'une galette parfaite? Est-ce qu'il y a une technique particulière?
Non, la pâte feuilletée, non, c'est comme je dis, hein, c'est le savoir-faire du pâtissier. Hein, parce que les ingrédients restent la farine, le beurre et puis les produits de qualité aussi pour faire une bonne galette.
Justement, comment est-ce que sont choisis peut-être les produits? Est-ce que c'est local? Pas forcément?
Oui, ça reste local, oui. La farine, c'est en Mayenne. Oui, tout reste local.
J'imagine que la clientèle aussi régulière est aussi toujours satisfaite de voir finalement sa boulangerie habituelle primée.
Oui, les gens, ils sont contents. Oui, ils sont contents pour nous et nous, on est contents aussi. On a la clientèle de Saint-Berthevin et on a beaucoup aux alentours aussi qui viennent. C'est vrai que ça augmente les ventes de galettes.
Est-ce qu'il y a un autre produit phare peut-être qui marche particulièrement dans votre boutique?
Le gâteau mayennais, c'est le gâteau spécialité de la Mayenne. C'est à base de cake avec des morceaux de pommes, du pommeau et de la nougatine.
Avec une galette, qu'est-ce que vous conseillez aux gens comme accompagnement en boisson?
Souvent, soit le vin blanc ou le cidre aussi.
Votre boulangerie La Tentation est ouverte du mardi au samedi de 7h à 19h, 63 avenue de la Libération à Saint-Berthevin. Chaque histoire ou personnage peut devenir pour lui source d'inspiration. Il s'agit bien sûr de notre chroniqueur Donatien. Et aujourd'hui, il nous parle de Zorro.
En 1965, Donatien a 8 ans. À l'époque, c'est le jeudi qu'il n'y a pas d'école. Alors il faut s'occuper dans le jardin de la maison angevine, enfin disons plutôt la cour avec du gravier, du sable et 2 ou 3 étiques lauriers peu gourmands en eau. Un escalier en pierre permet d'accéder à l'étage de la maison, escalier sécurisé avec une rampe en fer forgé, peinte et repeinte chaque année. Un escalier que l'on gravit comme une montagne et qu'on dévale 4 à 4 quand les parents regardent ailleurs. Avec un peu d'imagination, cette cour devient le désert, un désert californien, aride et immense. Le balcon, c'est celui d'une hacienda, comme dans Zorro, la série qui passe en noir et blanc sur la première chaîne de l'ORTF, avec Guy Williams dans le double rôle de Don Diego et du héros masqué. Pour mieux s'identifier, Donatien s'est confectionné un loup noir, masque percé de deux ovales. Deux coups de marteau et deux pointes ont permis la confection d'une épée de bois. Pour le cheval, c'est un tréteau de bois, lui aussi, que Donatien a équipé d'étrier et qu'il chevauche à la poursuite d'un brigand dépourvu de scrupules, d'honnêteté et d'idéal. Donatien surgit hors de la nuit, court vers l'aventure au galop, signe à la pointe de son épée d'un Z qui veut dire Zorro. 58 ans ont passé et devant un écran couleur, Donatien se désole devant la dernière série de Zorro en 8 épisodes tournée pour Netflix dans la province espagnole d'Almeria. Tous les rêves s'écroulent. Don Diego s'est empâté et son sourire qui manque de charme est surmonté d'une moustache qui, elle aussi, a perdu bien de sa sensualité. Bernardo, toujours sourd et muet, est devenu plutôt sévère envers son patron. Quant au brave sergent Garcia, il se perd dans des considérations psychanalytiques pour justifier son sentiment de culpabilité avant de se lancer à la poursuite de Zorro en utilisant ses facultés de profileur mentaliste, autrement dit d'analyste comportemental. Dans le making-of, scénariste et réalisateur nous explique que Zorro est un héros transgénérationnel et que le film se regarde comme un discours sociétal autour de la naissance du capitalisme, un triangle dont les trois angles sont le sens, le rire et la beauté. Certes, la beauté de l'épouse de Zorro, merveilleusement interprétée par Audrey Dana, est indiscutable. Mais pour le reste, quelle déception. Rendez-nous le charme et l'intrépidité de Guy Williams, le Zorro de notre enfance. La musique, les cascades et les images en noir et blanc des aventures de ce cavalier surgi hors de la nuit, renard rusé qui fait sa loi et qui signe son nom de la pointe de son épée d'un Z qui veut dire Zorro, 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 vainqueur à chaque fois.
Ta-da-dam.
Évidemment, évidemment.
Un cavalier surgit hors de la nuit, court vers l'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée d'un Z qui veut dire Zorro. Zorro, Zorro, renard rusé qui fait sa loi. Zorro, Zorro, vainqueur, tu l'es à chaque fois.
Tchac, tchac, tchac.
Un cavalier qui surgit hors de la nuit, court vers l'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée, d'un Z qui veut dire Zorro. Zorro, Zorro, renard rusé qui fait sa loi. Zorro, tu l'es à chaque fois. Zorro, Zorro, renard rusé qui fait sa loi. Zorro, Zorro, vainqueur, tu l'es à chaque fois. Zorro, 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 Zorro.
Vous l'avez reconnu, c'était le générique de la série télévisée Zorro, signé Claude Germain, José Germain et Vincent Munro. L'Agité du local, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Xenia Breuil d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à notre chroniqueur Donatien. Et merci à toi, Maxime. Nous on se retrouve demain pour une nouvelle émission de l'Agité du local. Nous serons avec Léonie et Patricia de l'association Teranga 53 qui récolte des fonds pour deux écoles du Sénégal à Saint-Louis. On en parle ensemble demain. D'ici là, prenez soin de vous, restez au chaud et tenez chaud à quelqu'un qui compte pour vous. Enfin, s'il vous plaît, faites-le bien.
Bon ben, Mimi, on dirait que c'est fini. Oh ben, c'était bien, hein.